Chapitre 3. Maman.
La rue Daniel Sorano était déserte. C'est la première image que je garde de cette nuit-là. Presque tout le monde dormait. Sur les 290 fenêtres de la façade de l'immeuble Sorano, je m'amusais à les compter à chaque fois que je revenais de l'école. Il n'y en avait que 7 qui étaient allumées. Tout en courant le long du parking, je cherchais un moyen pour les mémoriser. Le 7e étage de l'entrée 2, le 8e de l'entrée 3, le 6e de l'entrée 6, le 4e de l'entrée 8. J'y ai repensé si souvent, maman, pendant toutes ces années. Eux seuls peuvent t'avoir vu passer, avoir vu papa te poursuivre, m'avoir vu courir en pyjama. Ils sont mes uniques témoins. À condition qu'ils aient regardé par la fenêtre au bon moment, à condition qu'ils n'aient pas préféré rester devant un film ou qu'ils ne se soient pas endormis la lumière allumée. Cela fait beaucoup de conditions, je sais. Je sprintais sur le parking, entre les voitures, sans trouver aucune trace de toi ni de papa. J'ai choisi d'aller en direction de la passerelle. C'était le seul pont pour passer au-dessus de la voie rapide qui sépare le quartier du reste de la ville. La rocade en contrebas était dissimulée par des murs anti-bruit, invisibles du parking et de l'immeuble Sorano. J'entendais juste quelques rares voitures circuler, rien à voir avec le trafic au cours de la journée. J'ai crié de toutes mes forces. « Où êtes-vous ?» Mais personne ne m'a répondu. J'avais envie de crier encore. J'avais envie de réveiller toute la cité, que toutes les fenêtres s'allument comme autant d'étoiles. Et je me suis arrêtée d'un coup. Ça y est, j'avais trouvé le moyen de me souvenir des 7 fenêtres allumées. Je les ai regardées, fascinée. J'étais en sueur sous mon pyjama, mais je n'avais pas froid. Je n'avais aucune idée de la température qu'il faisait. Je scrutais l'obscurité. « Où es-tu, maman ?» Devais-je continuer vers la passerelle ou au contraire m'enfoncer dans le quartier du Château Blanc, vers les rues Rému et Jouvet, ou retourner sur mes pas, remonter l'escalier, retrouver Bolduc? Je lui avais promis de ne pas traîner. Après tout, peut-être que toi et papa étiez déjà rentrés, réconciliés. J'ai décidé de changer de direction, de tourner vers la rue Dulin, au cœur du quartier. J'ai recommencé à courir, de plus en plus vite. Je me persuadais que j'avais pris la bonne décision. Tout le monde te connaissait ici, maman. C'était forcément au cœur de la cité que tu irais chercher de l'aide. Il suffisait que quelqu'un soit debout. Je suis parvenue au croisement des rues Moreno et Signoret. Essoufflée. Mais je ne voulais pas m'arrêter. Tu aurais pu entrer dans n'importe quelle cage d'escalier et te cacher. Tu aurais pu. Je n'ai pas vu la silhouette surgir sur ma droite. Je suis rentrée dedans, sans ralentir, sans pouvoir réagir. Je me suis retrouvée allongée par terre sans même avoir le temps de penser que ça pouvait être toi, maman, ou papa. Un chien, que je connaissais bien, tournait autour de moi en entortillant sa laisse autour de mes jambes. Argo, le golden retriever de Monsieur Lazare. Je me suis redressée, je n'avais mal nulle part. Je n'avais pas l'impression de saigner et même, je m'en foutais. Monsieur Lazare s'est penché avec inquiétude vers moi.
Ophélie ?
Désolée, monsieur, mais... Il a regardé mon pyjama, mes baskets. À l'époque, Monsieur Lazare avait déjà au moins 75 ans. C'était un ancien policier et il occupait ses journées et ses nuits aussi à promener son chien dans le quartier.
Ophélie, qu'est-ce que tu fais ?
Désolée, monsieur. Désolée, Argo. C'est ma maman. Faut que je la retrouve. Elle est en danger. Prévenez la police. Je vous en supplie. Il m'a dévisagée comme si je m'étais échappée d'une maison de fous.
Ta maman ? Je l'ai croisée il y a 5 minutes à peine. Mais...
J'ai eu envie de l'embrasser. Je me souviens m'être promis dans ma tête de ramener un os à Argo. Ou son poids en croquette. Où ça, monsieur ? Vite ! Il a hésité. Il se doutait que quelque chose ne tournait pas rond. On ne laisse pas une fillette de 7 ans courir à 2 heures du matin seule dans la cité.
Reste avec moi, ma petite. On va appeler la police. Tout va s'arranger. Ta maman va...
Elle est partie de quel côté, s'il vous plaît ? Il s'est gratté la tête. Il avait compris que s'il ne disait rien, j'allais m'échapper. Ce n'était pas Argo qui allait m'en empêcher, ni lui me rattraper.
On va y aller tous les deux, Ophélie. Ta maman n'est sûrement pas loin. Quand je l'ai croisée, elle courait en direction de la passerelle.
La passerelle ? Quelle idiote ! Pourquoi avais-je changé d'avis ? Tout en détalant plus vite que jamais, j'ai crié. Merci ! Je me suis à nouveau retrouvée devant l'immeuble Sorano. Au bout, la passerelle. En dessous, la voie rapide. Combien de temps s'était-il écoulé depuis tout à l'heure ? Une seconde ? Une minute ? 10 minutes ? Combien de temps avais-je couru dans le quartier ? Une seconde ? Une éternité ? Assez pour que tout le monde commence à se réveiller. Quelques dizaines de fenêtres étaient allumées. Assez pour que des dizaines de personnes soient debout, au pied de la passerelle. L'éclat d'un gyrophare m'aveuglait. Si Monsieur Lazare avait prévenu la police, elle avait été ultra rapide. J'entendais la sirène d'une voiture se rapprocher. Je voyais des policiers en uniforme accourir. Je me suis dit que puisqu'ils étaient là, maman, plus rien ne pouvait arriver. Tout était terminé. Cette fois, ils allaient forcément te croire. J'allais tout raconter aux policiers. Tout le monde pourrait témoigner. On allait pouvoir rentrer chez nous, toutes les deux. Tant pis si on n'avait pas beaucoup d'argent. Tant pis si l'appartement n'était pas grand. Je m'en fichais. Du moment qu'on était à l'abri ensemble. Le gyrophare du camion des pompiers faisait tourbillonner ce qui restait de la nuit. Je me suis approchée de la lumière. Il y avait au moins une vingtaine d'adultes devant la passerelle. Personne ne m'a vu arriver. J'ai vu d'abord 3 pompiers penchés autour de papa. Il avait l'air de dormir. Je ne m'inquiétais pas, j'avais l'habitude qu'il soit dans cet état. C'est à ce moment-là qu'un adulte m'a repéré, un pompier au casque argenté. Il a crié et ouvert ses bras pour m'arrêter, pour m'empêcher d'aller plus loin. J'ai eu ensuite l'impression que tout se déroulait au ralenti. Je me suis faufilée, mais des mains, des bras m'ont tout de même attrapée. Je me suis débattue comme une folle. Il s'y prenait au moins 4 pour me calmer, mais il ne me calmait pas. Ils ont tenté de m'éloigner de la passerelle. Ils ont tenté de mettre leurs mains devant mes yeux. Ils ont tenté de m'éloigner de toi. Ils ont tenté de tout faire pour que je ne te voie pas. Ils n'ont pas réussi. Je t'ai vue, maman, 3 mètres plus bas. Je t'ai vue étendue, bras en croix, sur le goudron de la rocade, au milieu des voitures arrêtées. Je continuais à me débattre. Je sentais tout mon corps trembler de la tête aux pieds, comme si j'étais électrocutée. Comme si toute la passerelle, tout le quartier, toute la terre s'était mise à trembler. Puis soudain, je me suis arrêtée, incapable de faire le moindre geste, comme un élastique trop tendu qui se casse. Les 4 pompiers qui voulaient me forcer à entrer à l'arrière de leur camion y sont parvenus sans difficulté. Je ne me débattais plus. Je ne pleurais plus. Toutes mes forces m'avaient quittée. Les pompiers, les gendarmes, les gens, tous avaient déjà compris. Plus jamais je n'aurai envie de manger, de jouer, de rire, de rien. Je ne serai plus qu'un fantôme. Triste à l'extérieur et morte à l'intérieur. C'est ce qu'ils croyaient. C'est ce que j'allais leur faire croire, à tous, à partir de cette seconde. Mais à toi, maman, je peux l'avouer. Oh non, mes forces n'avaient pas disparu. Je les avais cachées. Je les avais toutes rassemblées quelque part, dans mon cerveau, en un seul point. Un point noir.